c'est qu'il y a un règlement obscur qui permet au marqueur officiel, de façon discrétionnaire, de donner la victoire à un autre lanceur s'il juge qu'il n'a pas assez bien lancé. Il y a quelqu'un qui manquait d'attention, j'ai l'impression, quelque part, là.
Ben, écoute, Alain, moi, si tu m'ouvres la porte de dire que le marqueur officiel, il a un petit pouvoir discrétionnaire sur certaines décisions, là, je pourrais aller dire que...
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Grand Match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeurs intérieurs et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzeau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet. On est au milieu du mois d'avril. Alain Huzeau en compagnie de Marc Griffin. À l'horaire, dans notre balado, cette semaine au programme, nous allons vous parler des Blue Jays de Toronto. Il y a quelques trucs qu'on a notés, et je pense qu'un peu tout le monde a noté aussi les problèmes avec des courants en position de marqueur. On va gratter un petit peu. On va parler également de ce qui se passe avec les Braves d'Atlanta. C'est pas un bon début de saison, ça on le sait. Par contre, à l'interne, il y a peut-être des frictions là, qu'on a vues apparaître. Ça, il en sera question. Chez les Yankees, ça va bien. Josh Chisholm, suspendu, c'est un joueur qui se moule bien à la culture des Yankees de New York, qui est un peu plus corporatiste, on pourra en parler un petit peu. La rapidité, est-ce que c'est un art qui s'est perdu au fil du temps? Peut-être pas pour les Rays, avec le rappel de Chandler Simpson. Puis on va parler aussi du congédiement de Hensley Mullins des Rockies du Colorado. Et la dynamique qui devrait s'opérer à l'intérieur d'une équipe, ça semble pas être si clair que ça. Au sein de quelques organisations. Marc, on va commencer avec les Blue Jays. Juste avant, un petit mot sur un entretien qu'on va vous présenter au cours de la semaine, qui a déjà été réalisé, qu'on est en cours de montage avec notre collègue Alex Agostino, que Marc a réalisé. Nous invitons fortement à écouter ou regarder cet entretien jeudi, en fin de journée. Il sera disponible. Marc, les Blue Jays de Toronto, on joue au-dessus de 500, même si ce n'est pas parfait encore. On aurait pu balayer les Mariners de Seattle. C'est pas compliqué, là. Si on avait eu le moindrement un peu plus d'opportunistes, samedi, si George Springer réussit un coup sûr, un simple, on gagne le match. C'est pas compliqué, là. Match qui s'est seulement en prolongation. Puis on a gratté un petit peu, Marc. Écoute, il y a quoi? Il y a 3 semaines de jouer. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas les occasions qui manquent.
Non, exact. C'est l'équipe qui a eu le plus d'occasions avec des coureurs en position marquée depuis le début de la saison. Mm-hmm. J'ai l'impression que on remet la cassette, Alain, c'était le même problème chez les Jays au cours des 2 dernières années, sauf qu'en plus, cette année, on est avant-dernier. Donc, 29e pour les coups de circuit. Là, je parle total. Là, je ne parle pas de coureurs en position de marquée, ouais. Rien de ça. Là, mais en termes de puissance, Alain, mm-hmm. On ne prend pas de coups de circuit. C'est correct, ça peut arriver, mois d'avril plus tranquille, mais si tu ne frappes pas beaucoup de coups de circuit, là, il faut que tu profites des coureurs en position marquée. Il faut que tu frappes des simples, comme tu as dit, là, dans le cas de Springer. Mm. Et là, les deux, ça ne se produit pas. On ne joue pas du mauvais baseball, on a une fiche positive, fait qu'il y a des choses qu'on peut espérer que ça change, mais ça reste que l'approche avec des coureurs en position marquée semble complètement différent ou semble, tu sais, on semble justement être pas en mesure d'avoir, parce que souvent, lorsqu'un coureur en position de marquer, on va se mettre de la pression comme frappeur. Alors que s'il y a personne sur les buts, il y a un petit peu moins de pression parce que, bon, c'est moins du baseball de situation, si tu veux. Alors qu'il y a des coureurs sur les buts, ben j'imagine que là, on s'en met davantage chez les frappeurs des Jays et on n'a pas de bonne présence au bâton. Bon, ça, c'est évidemment, c'est connu de tous là, dans le domaine du baseball, mais c'est que de voir l'équipe au complet, il faut trouver une manière de s'en sortir. Puis la seule manière, c'est d'avoir, selon moi, pas la seule, il va demander d'en avoir plusieurs, là, mais une manière intéressante, c'est d'avoir une approche un peu plus différente parce que on n'en frappe pas de circuit, puis on a l'impression qu'on en cherche toujours, alors que là, on sort de notre façon de faire. C'est la même chose avec les coureurs en position de marquer. Tu sais, il faut que tu sois. Il lance, quelle est la situation, tu sais, je vais essayer de frapper une balle au champ opposé, ça revient souvent à la base, ça revient. Mais c'est parce que c'est collé à l'équipe depuis une couple d'années, Alain, ce problème-là.
Oui. Marc, il y a deux choses que je. Enfin, il y en a plusieurs là, que je pourrais souligner. Certains disent les bons frappeurs, comme Guerrero, c'est clair qu'on l'évite présentement. Il y a un seul coup de circuit, vous allez me dire, sauf qu'il frappe la balle d'aplomb et ça va venir. C'est juste son. Quand tu vas avoir son angle de propulsion, là, ça va venir. Ce n'est pas une inquiétude. Santander inquiète un peu plus. Là, c'est cette fameuse approche-là, Marc. Et là, il y a plusieurs choses qui me trottent dans la tête. Il y en a une, Ted Williams, on lui disait, tu aurais produit plus de points si tu avais changé ton approche. Williams était peut-être le frappeur le plus sélectif de l'histoire du baseball. Bon, et on disait, oui, mais tu es trop sélectif. Et Ted Williams disait... Il n'est pas question que je m'élance sur des tirs qui ne sont pas à mon goût. Et Moneyball, c'était ça. Moneyball disait « Approchez chacune des présences au bâton comme si vous étiez le premier frappeur. » Donc, là-dedans, Marc, puis, moi, je trouve que ce que... Bon, Ted Williams, c'est l'un des meilleurs frappeurs de l'histoire du baseball. Et d'ailleurs, ces théories, Marc, ont été laissées de côté pendant longtemps, mais c'est ce qui est appliqué aujourd'hui. Tu sais, le fameux launch angle, lui, il l'avait en théorie avant. Donc, là-dedans, tu te situes où? Quand tu parles d'approche, est-ce que, oui, l'approche Moneyball, ça correspond un peu à ce que Ted Williams fait, dans le fond? Est-ce que c'est pas plus mental que d'autres choses? Ben, je parlais de la pression qu'on se met, là.
C'est assurément mental, assurément mental. L'approche que tu mentionnes, Alain, c'est que chaque frappeur est différent. Dans le sens que, prends un Larry Walker là, pour parler à un ancien. Mm-hmm. Larry Walker avait sa part de but sur balle, Alain, mais c'était un frappeur très agressif. Un frappeur que si tu lui lançais une balle rapide parmi les deux premiers lancés, surtout avec un coureur au troisième, moins de deux retraits, le gars va s'élancer. Il va aller chercher ce point produit-là d'une manière quelconque. Fait que ça, c'était son approche. Il est au temps de la renommée aujourd'hui. Fait qu'on pourrait pas dire que là, il aurait dû prendre plus de tirs comme dans le cas de Bill Williams. Là. Bon. Mais il y a des approches qui sont différentes. Donc, ça fonctionne pour chacun, mais l'approche d'aller chercher, de trouver ton propre lancer, ça, c'est une approche qui est intéressante. S'il n'y a pas de coureur sur les buts, si on cherche à avoir, tu sais, justement, là, aller chercher, on a besoin de coureurs, on a besoin de situations. Il faut que chaque frappeur exploite ses propres forces. Parce que si tu t'adaptes aux forces du lanceur, ben, tu vas tomber dans le piège. Mm-hmm. Fait que, tu sais, si tu es un frappeur patient, moi, j'ai pas de problème à ce que tu sois patient. Si tu es un frappeur agressif, on sait que les retraits sur des prises, ça vient avec, là, dans le baseball moderne. Mais tu peux pas changer le joueur que, si tu es rendu dans le baseball majeur, tu as fait quelque chose de bien. Que ce soit dans l'universitaire, que ce soit au niveau du collégial, peu importe. Fait qu'il y a des choses qui fonctionnent pour toi. Et le problème, Alain, souvent, je pense, c'est que là, on sort de ça lorsqu'on arrive dans des situations de même. Mm-hmm. Alors qu'il faut, au contraire, rester dans notre approche. C'est comme, tu sais, Beau Bichette, il s'élance tôt. Ça a toujours été ça. Ses meilleures années de coup sûr, c'est un gars qui s'élançait tôt, puis qui a une très, très belle approche à deux prises. Change rien. C'est là, moi, je pense, c'est pas une mauvaise approche de dire, applique chaque présence comme si c'était le premier frappeur. Parce que ça veut dire que tu vas attendre ton lancer, tu vas. Mais le problème, c'est que si tu es un coureur, par exemple, au troisième, puis tu as besoin de le faire rentrer, tu ne veux pas tomber 0 et 2, là. C'est là que tu vas frapper le petit roulant, puis l'avant-champ, je vous rapprocher. Donc, chaque situation est différente. Il faut avoir un plan dans chacune des situations, mais il ne faut pas changer son propre style. T'sais, je ne viendrai pas un frappeur de puissance demain matin juste parce que là, j'ai un coureur en position de marquer. Mon élan devient plus long. Bon, tout ça pour dire que c'est pas intéressant. Puis tu sais, la solution n'est pas si simple, Alain, parce que les Blue Jays l'appliqueraient si c'était si simple que ça, la solution.
Oui.
Alors, c'est ça.
Larry Parrish me racontait, moi, puis là, je remonte encore quelques années, il a évolué 3 ans avec Tony Perez, qui était réputé pour être un des meilleurs producteurs de points de son époque, une dizaine d'années de suite avec 90 points produits et plus. C'est pratique quand tu as Joe Morgan et Pete Rose en avant de toi, tu vas me dire, mais il est quand même produit. Donc, il a pris les restants de Johnny Bench pendant une bonne partie de sa carrière. Tony Perez disait à Larry Parrish, parce que Parrish, avec un gros troisième, cherchait constamment le ballon sacrifice et ça donnait, c'était des chandelles à l'avant-champ, fait que s'est adressé à Tony Perez. Puis Perez, il a dit, regarde, cherche à frapper la balle d'aplomb au champ centre.
Exact.
Il dit, frappe la balle d'aplomb, prends, choisis-toi un tir à ton goût, puis quand tu vas l'avoir, vise le champ centre. Et dans le fond, ce que Perez disait, c'est que ça ne devrait pas être l'approche en tout temps.
Bien, c'est l'approche en tout temps, honnêtement. Ouais. Il faut faire attention quand on dit « vise le champ centre ». Okay? Ça ne veut pas dire qu'il faut que je guide la balle vers le champ centre. C'est pas ça que ça veut dire. Le champ centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire « laisse entrer la balle dans la zone de contact ». Parce que mon élan, puis on a vu dans la dernière série mondiale, rappelle-toi les exercices au bâton de Freddie Freeman, c'était qu'on s'en va, le bâton, là, on appelle ça un élan court et long, Alain, là, c'est la traduction de short-long. Donc, on est court à la balle, mais longtemps dans la zone de contact vers le centre. Fait que mon bâton, là, je triche pas. Autrement dit, je tourne pas pour tirer la balle ou je suis pas complètement en retard pour que la balle soit hors ligne, par exemple, un frappeur gaucher du côté du troisième. Il faut que... C'est mon point de contact. Lorsqu'on dit « frappe la balle vers le champ centre », c'est que c'est mon point de contact, mais toute mon énergie s'en va vers le centre. Mm-hmm. Alors, ça, c'est la meilleure approche. Mais c'est la meilleure approche pour tout frappeur. Alors, et là, tu intègres le style du gars, tu intègres sa façon, son approche au niveau d'agressivité ou de patience ou de tout ça. Quand un joueur tombe dans une profonde léthargie, c'est exactement ce qu'on va lui dire. Et frappe la balle au centre ou frappe la balle au champ opposé, c'est-à-dire un frappeur gaucher va frapper par-dessus l'arrêt court, puis un frappeur droitier va frapper par-dessus le deuxième but. Ça, c'est la meilleure façon pour avoir laissé la balle entrer un petit peu plus, puis voir cette balle-là, puis essayer de la frapper vers le centre. Quand tu frappes vers le centre, Alain, je sais qu'avec les nouvelles défenses, t'as l'arrêt court qui joue pratiquement derrière le deuxième but, là, mais ça t'ouvre le terrain. Ouais. Et rappelle-toi, lorsqu'on avait, on n'avait pas de règles des défenses adaptées, ben, tout le monde se mettait du côté droit, puis alors là, ben, on se fermait le terrain, on frappait jamais la balle du côté gauche, fait que là, on prenait seulement deux tiers du terrain, fait que c'était facile la défense de s'adapter à ce moment-là. Ben, il n'y a pas de solution parfaite, il y a des pistes de solutions pour l'appliquer. Mais ça, Alain, il faut le faire en équipe, il faut le faire en groupe, il faut se parler, il faut trouver une solution. C'est comme si tu ne marques pas un but en avantage numérique pendant 50 possibilités. À un moment donné, il va falloir se parler et trouver des nouvelles façons de faire. C'est un peu sûr que les Blue Jays doivent se regarder dans le miroir parce que pas de circuit, pas une bonne moyenne avec du coup en position de marquer, puis beaucoup de retraits sur des prises. Écoute, il y a 59 retraits sur des prises dans les 200 quelques présences avec coureurs en position de marquer. Là, on ne met même pas la balle en jeu.
Oui, c'est énorme. Oui. Marc, compte tenu du manque de puissance auquel on assiste, il y a un nom qui est soulevé, Addison Barger, qui a été rappelé. Il a l'air d'un joueur de balle, on va dire les vraies choses. Là, des deux derniers camps d'entraînement, Marc, c'est des MPP au-dessus de 1000. Pas seulement cette année, l'année passée, c'était la même chose. Il est rendu à 25 ans. Est-ce qu'il est temps qu'on lui donne l'opportunité de jouer régulièrement compte tenu des ennuis actuels? Manque de puissance, c'est probablement celui qui est capable de t'en donner le plus. C'est vrai que c'est tentant de faire jouer Alan Rodden présentement. Lui aussi, peut-être même comme premier frappeur, comme tu me mentionnais, je pense qu'il y a le profil. Mais dans le cas de Barger, on fait quoi? Parce qu'il y a une décision à un moment donné qu'il va falloir être prise. Il est rendu à l'âge où, regarde, donne-lui sa chance ou... fait d'autres choses avec lui. Là.
Oui, mais et en passant, je pense qu'on a pas apprécié son bras canon. Là, ton rappel, c'est assez impressionnant. Là. Ouais. Mais, tu sais, comme par exemple, Alain, là, il est 1 en 14. Ouais. Fait, faut que tu m'en donnes un petit peu plus. Tu es 1 en 14, bon, 3 retraits sur des prix, c'est pas désastreux, mais il a frappé un double. Mais, moi, j'aurais tendance à dire oui. Je l'aime beaucoup. Là. J'aime son approche. Effectivement, c'est un gars qui frappe des balles d'aplomb. Mais tu sais, dans le baseball majeur, Alain, ça me prend les résultats assez rapidement. Je ne dis pas qu'il faut qu'il en frappe. Il faut qu'il en frappe 10 dans ses 20 premières présences. C'est pas ça que je dis. Il faut que tu me démontres que là, il y a quelque chose avec ça. Parce que je ne peux pas vivre avec 1 en 14 tout le temps. Est-ce que c'est 2 en 28? Est-ce que c'est 3? Bon. Mais là, si on avait un plan, parce que si tu vas le voir puis tu dis, regarde, tu vas jouer, surtout évidemment que ça va être un droitier qui va être au monticule. Chaque fois qu'il va avoir un droitier au monticule, là, tu vas avoir le départ pour les deux prochaines semaines, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je ferais si j'étais un gérant. Parce que moi, on m'a déjà fait ça. Tu sais, ça allait pas si bien mes affaires. Puis à un moment donné, il y a un gérant qui était venu me voir, me dit, gars, Marc, arrête de t'en faire, là. C'est toi, t'es le premier frappeur du rôle offensif pour les 2-3 prochaines semaines. Fait que fais-toi-en pas. Puis je suis parti. Je veux dire, mentalement, là, j'arrivais plus au parc craintif. Ouais. Je veux dire, joues-tu, je joue pas. Puis si je joue, vas-tu bien jouer? Puis non. T'es, on te laisse le poste. Vas-y, c'est à toi. Alors, tu te détends, ça va mieux, tu appliques évidemment ce que tu as à faire. C'est peut-être une solution dans le cas de Barger. Je sais que c'est facile à dire. Puis encore une fois, dans le baseball majeur, il faut gagner. Tu sais, c'est pas une ligue de développement normalement, même si évidemment on se développe, là, mais peut-être que ce serait une piste de solution de dire, hey, regarde, on va te mettre là, au champ droit là, pour les prochains matchs. Là. Fait que peu importe tes 0 à 4, on continue. Let's go, on le fait. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une certaine limite, là, mais t'sais, oui, il faut trouver de la puissance. Puis le problème, Alain, d'une équipe, il n'y a pas beaucoup de puissance, c'est que tout le monde va chercher à en faire un petit peu plus. Puis là, au lieu de continuer à avoir des élans rapides à la balle, là, on va avoir des élans qui vont être plus longs. Là, tu parlais des chandelles à l'avant-champ de Larry Parrish tantôt, plus tu vas en voir. Fait que c'est dur, ces affaires-là, surtout lorsque c'est un problème d'équipe.
Oui. C'est sûr qu'à partir du moment où Santander et Guerrero vont la sortir plus souvent, ça va aider l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est,
aucun doute.
Ouais. C'est le temps de la carte de baseball de la semaine. C'est une présentation de Cartes d'Union. Dépôt.ca, c'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. On jette notre dévolu sur un ancien des Royaux de Montréal. Ça, c'est peut-être méconnu, Marc. Sparky Anderson, ancien gérant des Reds de Cincinnati et des Tigers de Détroit. Il a gagné la Série mondiale avec les deux équipes. C'est la série Donruss de 1983. C'est la carte numéro 533. On le montre avec un bâton dans les mains. C'est qu'il a joué une saison dans le baseball majeur, Sparky Anderson. C'était avec les Phillies de Philadelphie comme joueur régulier au deuxième but. Les Phillies n'avaient pas une très, très bonne équipe, juste en passant. Il avait joué avec les Royaux de Montréal en 1956. Et parmi ses coéquipiers, on retrouve un dénommé Dick Williams. Bien oui, Dick Williams. Donc, Sparky Anderson qui appartenait aux Dodgers de Brooklyn. Il y a beaucoup de gérants, Marc, qui ont suivi, qui viennent de la filière des Dodgers de Brooklyn. On faisait les choses de la bonne façon à ce moment-là. Ça s'est perpétué par la suite. On a été témoin, Marc, dans le cas de Sparky Anderson. Donc, il y a deux cartes de lui comme joueur. Ben, il a joué un an. Donc, 59 et 60. Et Marc, petite devinette, tu sais quel est le vrai prénom de Sparky Anderson?
Vas-y.
George.
Ah oui, c'est vrai.
George Anderson, c'est sous ce nom qu'on va retrouver ces deux cartes de baseball de 1959 et 1960. Donc, quant à la série de 1983 dans laquelle on retrouve celle de Sparky Anderson avec les Tigers de Détroit, c'était le troisième ensemble annuel de cartes de baseball qui en regroupe un total de 660.
Allez, c'est le moment de parler de notre partenaire principal, le Plan de match. Plan de match, ben c'est maintenant deux boutiques, une à Boucherville et l'autre à Jonquière. Et c'est le printemps, c'est le début de la belle saison, c'est temps de s'équiper. Si vous venez à Boucherville, il y a aussi cache de frappeurs, il y a des cours privés. Et allez sur la boutique en ligne. En fait, c'est boutiqueplandematch.com. Ça, c'est pour la boutique en ligne. Ben, vous pourrez trouver un paquet d'équipement, dont la casquette de compte complet. Alors, merci à Plan Match pour, évidemment, sa grande confiance en nous. Et si vous avez besoin de savoir comment nous écouter, nous regarder, ou peu importe toute information sur notre balado, allez visiter notre site internet compte-complet.com.
Les Braves d'Atlanta n'ont pas un très, très bon début de saison. Ils sont derniers dans l'Est au moment où on se parle. Ça va se régler à un moment donné. Les Marlins vont glisser derrière les Braves. Ça, c'est assez clair. Washington, probablement. Mais on va s'arrêter sur un incident, Marc, que tu as relevé. Et ce sont des propos qu'on a vus sur les réseaux sociaux de la part de Ronald Acuña à la suite d'une course nonchalante de Jared Kelnick. Et ça n'est pas passé inaperçu. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu as lu et ta réaction par rapport à la réaction d'Acuña vis-à-vis cette course-là?
Ben écoute, tu sais Alain, lorsqu'on joue pas bien, en deçà des attentes, tout le monde cherche des bébites. C'est la faute de la mascotte, c'est la faute du DJ, c'est la faute de ci. C'est souvent le cas, mais...
Qu'est-ce qui est arrivé, Marc, exactement?
Là? C'est ça. C'est qu'il y a eu une course où Kelenic n'a pas couru, certainement pas dès le départ, et s'est fait prendre au deuxième. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, c'est que sur un jeu très, très, très serré, alors que On sait que si on donne moindrement un effort en sortant du rectangle, il aurait été sauf évidemment très, très facilement et retiré. Situation où l'équipe ne gagne pas souvent, on ne marque pas une tonne de points, tu places un gars en position de marquer, tu comprends le portrait. Et Brian Snitker, le gérant, n'a rien fait là-dessus. On n'a pas sorti Kelenic du match, on a poursuivi comme si tout était beau. Et ça a frustré Ronald Acuña Jr. pour deux raisons. La première étant, ben justement, on perd des matchs, on gagne pas. C'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est un peu une flèche à l'endroit du joueur en voulant dire, hey, t'es mieux d'arrêter de te traîner les pieds. Mais c'est surtout une flèche vers son gérant. Parce qu'il dit, Ronald Acuña Jr., si ça avait été moi, on m'aurait sorti du match si j'avais pas donné cet effort-là. C'est déjà arrivé. Les Braves sont reconnus pour ça. Bobby Cox avait sorti Andrew Jones en plein milieu d'un match. Sors de là, mon homme, là, c'est pas de même que tu vas jouer au baseball. Ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Là, je vous parle évidemment de l'époque de Bobby Cox avec les Braves et d'Andrew Jones. Et on a fait un peu la même chose avec Acuña lorsqu'il est arrivé. T'sais, on veut casser les jeunes, le jeune paraît mal, mais c'est une leçon tu répéteras plus l'erreur. Alors, Acuña, c'est ça, il en a voulu un peu à Snitker. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand ça va pas bien, il y a des commentaires parfois qui peuvent se faire dans un vestiaire, dans un abri, pour dire « Hey, les gars, arrêtez de vous traîner les pieds, là, c'est inacceptable. » Mais là, c'est devenu public, en raison, évidemment, de la réaction d'Acuña Junior. Puis, tu sais, en même temps, c'est parce que il y a que tu prennes d'un côté ou de l'autre, ça expose un problème, Alain, qui est pas super. Là, est-ce que Snitker est trop mou pour, tu parlais tantôt de, tu sais, d'être capable de se coller au meilleur? Est-ce qu'à ce moment-là, Snitker est trop mou selon les meilleurs joueurs de l'équipe? On n'a pas assez de discipline? Est-ce que c'est pour ça qu'on perd? Est-ce qu'on, les gars font continuellement les mêmes erreurs, mais on continue à les mettre dans la formation? Bon, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, en plus, tu perds. Donc, Snitker paraît pas bien. Acuña, pour certains, paraît pas bien parce que là, il s'ouvre la trappe puis il est même pas encore avec l'équipe officiellement. C'est pas bon ce qui arrive. Mais en même temps, si on a à gratter un petit peu, moi je suis un petit peu d'accord avec Acuña Junior, personnellement. Mm-hmm. Dans le sens que ça prend quelqu'un qui va dire ben, à un joueur d'arrêter de se traîner les pieds. Puis, ben, évidemment, l'affaire avec Snitker, on aurait pu faire ça à l'interne, dans un bureau fermé. Mais moi, j'aime mieux avoir un gars de caractère comme ça qui n'est pas content de voir son équipe se traîner les pieds. Il a peut-être été malhabile d'exposer ça au grand public, mais ça reste que. Moi, je veux un joueur qui ne se traînera pas les pieds dans mon équipe et qui va le dire à l'autre.
Mm-hmm. Oui. Marc, je regardais un peu les statistiques des Braves d'Atlanta. Ils sont sous la moyenne autant à l'attaque qu'au monticule. Au monticule, ce qui est inquiétant, on l'avait dit, Marc, de penser que Lopez et Sale étaient pour avoir le même rendement cette année, c'était peut-être en demander trop qu'il y en a d'autres à qui on devait en demander plus. Sale, c'est un très mauvais début de saison. En fait, Lopez est blessé. Ça fait en sorte qu'on teste réellement la profondeur de ce personnel de lanceurs. Schwellenbach va bien. Grant Holmes donne de bons services. Mais c'est sûr que tes deux as, Marc, qui n'ont pas le même rendement, ça veut dire que, tu as besoin d'avoir d'autres joueurs qui prennent la relève. Là.
Bon, évidemment, Strider qui arrive, là, on va donner le temps aussi. Là, de. Ça va certainement aider la cause. Mais c'est fragile. C'est fragile. Puis on expose ça, Alain, par le fait aussi que l'attaque ne fournit pas assez. Là, on a rappelé Alex Verdugo. Tiens, on se met à gagner. Je ne dis pas que c'est c'est carrément ça, mais on a aussi affronté une équipe, les Twins, qui va pas. Les Twins vont pas bien du tout, là. Mais on en a profité. On les a quand même balayés, là, sur une série de trois. Ouais. Là, on affronte les Cards de Saint-Louis. On a peut-être les possibilités d'aller chercher quelques victoires, reprendre une certaine confiance. Mais les propos d'Acuña vont peut-être aussi là, résonner à l'intérieur du vestiaire pour faire en sorte que ça va réveiller un petit peu tout le monde à ce niveau-là, ce qui est pas mauvais. Mais encore une fois, il faut que les Olsen se mettent à frapper davantage. Il y a un paquet de choses là-dedans là, que les Braves doivent faire beaucoup mieux, ça c'est certain.
Marc, parlant d'esprit d'équipe et de joueurs qui doivent en donner plus ou l'énergie qu'un joueur apporte à une équipe, Jazz Chisholm avec les Yankees de New York, suspendu pour un match, franchement, de façon bien inutile. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec une décision d'un arbitre, mais je sais pas si tu as vu les images, beaucoup trop insistant, Marc. Une fois que tu as dit ce que tu avais à dire, tu retournes à l'abri puis tu retournes sur le terrain. Je sais pas le mariage, moi, à long terme de Chisholm avec les Yankees, ça va donner quoi? J'ai l'impression que c'est l'image corporatiste des Yankees, Marc, on aurait peut-être intérêt à la changer, cette image-là, ce qu'on lui a reproché d'ailleurs à l'ensemble de l'équipe et à Aaron Boone, et peut-être même le deuxième étage. Bon, on se situe où là-dedans? Moi, je ne sais pas, j'ai pas à long terme, là, je suis pas sûr là, que ça va fonctionner avec Chisholm.
Ben moi, là, je vais te dire une affaire, Alain. D'être frustré, ça va arriver. Ça va arriver.
Ouais.
Là, d'aller dans le vestiaire durant le match, puis de dire que je vais aller écrire sur les réseaux sociaux que l'arbitre n'est pas bon, ça va me donner une popularité. Ça va me donner quelque chose de positif? Ça ne me rend pas dans la tête. Moi, ça ne me rend pas dans la tête là, de dire je vais aller poser ce geste-là. Ça va bien, faire bien paraître tout le monde. Ça n'a aucun sens. Moi, ouais. Je sais pas. Moi, j'ai pas aimé ça du tout. Là. Moi, je suis dans l'organisation des Yankees au deuxième étage. Je suis pas vraiment, mais vraiment pas content. Là, encore une fois, tu as beau avoir du caractère, là, c'est mal placé. Là. Ça, c'est vraiment. Ton équipe gagne, ça va bien, tu es en première place. Puis tu t'en vas amener une énergie négative comme ça parce que monsieur est pas content d'une décision. Tu sais, là, quand on dit c'est pas le nom en arrière qui compte, c'est le nom en avant là, sur un uniforme. Ben là, dans le cas de Chisholm, j'ai l'impression que c'est le nom en arrière. Même si on n'a pas de nom sur l'uniforme des Yankees, vous comprenez un peu ce que je veux dire.
Ouais.
Moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Tu sais, les gars vont le défendre, un gars comme Josh va le défendre, c'est son coéquipier, mais ils sont pas d'accord. C'est sûr que, voyons donc, c'est ça fait mal paraître tout le monde un peu, cette affaire-là.
Puis l'équipe va bien, tu n'as pas besoin de ça.
Là. Exactement. C'est pour ça que je dis, là tu as l'air très égoïste en ajustant de la sorte. T'sais, si l'équipe ou un gars des Braves le faire parce que ça fait 4 de suite qu'on en perd, tu dis, bon, là, ça va pas bien parce que c'est un peu normal, ça va pas bien, on gagne pas. Mais là, tu gagnes, tu es en première place. Écoute, on lance comme on pensait jamais lancer, surtout avec tes deux partants numéro un qui sont sur la touche. Là, tu regardes le travail de... Non, les Yankees, il faut garder cette énergie-là positive, là, parce que ça va bien. Prend tout ce qui passe en début de saison. Là, la saison est longue. Là, c'est un geste très égoïste. Je trouve ça bien malheureux.
Marc, on va parler de... quelque chose que tu aimes bien, la rapidité. Quelle est son importance dans le baseball d'aujourd'hui? Et là, je fais référence aux Rays de Tampa qui viennent de rappeler Chandler Simpson. J'imagine que ses parents étaient des fans de la série Friends. Écoute, Simpson a volé près de 100 buts dans les ligues mineures. De 200, dis-je, 200 buts. 100 l'année passée et près de 100 l'année précédente. On vient de le rappeler. Ce gars-là, il faut qu'il rentre sur des buts. C'est pas un gars de puissance. C'est un gars qui vient de la Géorgie, donc on a voulu ajouter un petit peu de pep à cette attaque. C'est probablement le premier de ce genre-là depuis Billy Hamilton là, qu'on a rappelé.
Ouais.
Je pense pas me tromper en disant ça. Il y a peut-être un peu de Lino de Shields, mais de Shields avait été un choix de première ronde. Donc, il y avait un peu plus que, même s'il avait volé 100 buts, mais dans le genre-là, peut-être Billy Hamilton qui se compare avec lui.
Ouais.
Nonobstant sa paire de jambes et le fait qu'il soit bien rapide, il faut qu'il se rende sur les buts, Marc. S'il ne se rendra pas sur les buts, il n'aura pas sa place.
Il n'a pas volé le premier but. Pas encore, en tout cas. Écoute, moi, je trouve qu'il y a de la place pour des gars de main. Tu ne veux pas avoir 8 gars comme ça dans ton équipe, comme tu ne peux pas avoir 8 frappeurs de coups de circuit puis un paquet de retraits sur des prises. T'sais, je veux dire, c'est une formation, un complément d'un paquet de choses. Mais tu sais, Billy Hamilton, dans ses bonnes années, Alain, il dérangeait, là. Puis, s'il faut se rappeler, là, puis là, je sais qu'on est porté à regarder les statistiques seulement, là, mais si Billy Hamilton est au premier but, là, parler à n'importe quel lanceur, ils vont détester ça, là. Fait que là, t'es toujours en train de faire une gestion de coureur, puis pendant ce temps-là, t'as un frappeur t'es un bon frappeur au bâton, fait que ta concentration est pas à 100% sur le frappeur parce qu'il faut que tu guettes ce qui se passe en arrière avec ta gazelle sur les sentiers, c'est fatigant. Mm-hmm. Tu donnes un but sur base, c'est un double. C'est peut-être même pas un triple parce que les gars vont voler. Tu as toujours ça derrière la tête comme joueur en défense. Tu vas précipiter ton geste. Tu vas, à un moment donné, lui, il court, il va falloir que je me dépêche. Si je me dépêche, le risque d'erreur augmente. moi, je trouve que ça en prend de ces gars-là. Est-ce que tu en prends 8 par équipe? Non, mais si tu en as un comme ça, il va déranger. Tu l'as dit, le grand défi, rends-toi au premier but. N'importe quelle manière. But sur balle, amorti surprise, qu'on appelle des choppers, là, frappe la balle au sol, court. Moi, on me disait, je me rappelle, les Dodgers à l'époque, frappe la balle au sol du côté gauche. T'es sûr que tu vas être sauf 4 fois sur 10? Fait que, bon, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, penser à, dans son cas? Peut-être, on verra bien. Mais il y a de la place, Alain, pour la vitesse. Même juste, parle juste de la défense. Couvre du terrain, va chercher des balles, part du premier, puis vient marquer sur un long simple. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Billy Hamilton a déjà marqué du deuxième sur un ballon sacrifice ou même sur un mauvais lancer. Donc, c'est du spectacle aussi, il ne faut pas, pas l'oublier. Mais moi, j'aime ça voir ce type de joueur-là de temps en temps arriver. Ça met tout le monde aux aguets. Moi, je pense que ça apporte beaucoup plus que ce qu'on tente que les statistiques tentent de nous faire dire. Ça dérange plus. Ça met tout le monde un peu sur le qui-vive. Ça crée des opportunités, ça crée des erreurs, puis ça devient spectaculaire. Fait qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut soit assez bon frappeur pour être capable de se rendre au premier.
Rapidement, Marc, deux petits points et avant la question de la semaine qui est reliée à ce dont on va parler. Vendredi, un match complètement fou entre Arizona et les Cubs de Chicago. Et le marqueur officiel a décidé de faire parler de lui. Pourquoi? Dans ce match-là, ça a fini 13 à 11. Les Diamondbacks qui ont perdu malgré le 8e manche de 10 points. Ça, tu marques 10 points dans une manche puis tu perds le match. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire du baseball. C'est qu'on en a accordé 5 en 7e et 6 autres en 8e manche. Donc, le match a duré à peine 3 heures. C'est peut-être ça qui... Enfin, la victoire aurait dû aller à Ethan Roberts, mais le marqueur officiel a décrété que c'était à Ryan Pressly qui allait la victoire, qui aurait dû avoir le sauvetage selon des conventions adoptées et retenues aujourd'hui. C'est qu'il y a un règlement obscur qui permet au marqueur officiel, de façon discrétionnaire, de donner la victoire à un autre lanceur s'il juge qu'il n'a pas assez bien lancé. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ignorais d'ailleurs ce règlement-là, puis Roberts n'a pas été le pire lanceur en passant. C'est ça qui est un peu, je trouve, bizarre dans le raisonnement du marqueur officiel dans cette décision-là. Je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui manquait d'attention, j'ai l'impression, quelque part. Là.
Ben, écoute, Alain, moi, si tu m'ouvres la porte de dire que le marqueur officiel il a un petit pouvoir discrétionnaire sur certaines décisions, là, je pourrais aller dire que... Je pourrais dire que pas parce que les voltigeurs n'ont pas touché à la balle que c'est un coup sûr, alors qu'on aurait dû saisir la balle, tu sais.
Ouais.
Je trouve que ça, Alain, là, on pourra éventuellement débattre un petit peu plus là-dessus, là, mais moi, je trouve que le baseball a évolué beaucoup, Alain. Les statistiques ont évolué, évidemment, la façon de jouer a évolué. Regarde, on pourrait. Mais la façon dont on marque les matchs n'a pas évolué. Puis ça, c'est peut-être la prochaine chose qu'il va falloir trouver.
De ce côté-là.
Ben oui, Alain, parce que les statistiques sont importantes. Ouais. Mais là, le jeu, là, on a des caméras partout, on voit des choses. Ce sont les meilleurs au monde. Mm-hmm. Il y a des erreurs qui se donnent, il y a des coups sûrs qui se donnent, il y a des prises de décision. Parfois, tu te dis, là, un instant, là, ça marche pas bien. Mais c'est sûr que ça va toujours être controversé, là, les marqueurs officiels. C'est un coup sûr, c'est une erreur, tu sais. Mais ça reste. Regardez, dans le match des Yankees, Max Fried avait un match sans point ni coup sûr, puis à un moment donné, on a changé une décision alors qu'on avait donné une erreur, on a donné un coup sûr finalement. Ça, c'est correct dans le sens que, bon, ça peut arriver, là, surtout lorsque. Il faut revoir parfois le jeu plusieurs fois, puis c'est des choses qui vont arriver, mais c'est pas nécessairement une science qui est parfaite puis qui est évidente dans ce cas-ci, mais ça fait jaser, effectivement. Dans ce cas-ci, là, je trouve que c'est. L'exemple de cette petite clause-là, c'est correct là, de la sortir, mais on a peut-être exagéré un peu là-dessus.
L'autre chose, Marc, officiellement, là, tu regardes les statistiques de Devin Williams, il n'y a pas de sauvetage bousillé, et pourtant, il a laissé aller une avance de 4 points en 9e manche en fin de semaine, c'est samedi, contre les Rays de Tampa, on a perdu éventuellement. Pourquoi il n'y a pas de sauvetage bousillé? Parce que quand il est entré dans le match, il n'était pas dans une situation de sauvetage. En tout cas, c'est un peu bizarre. Sauf que, et c'est pour ça, Marc, je relève toujours la fameuse statistique Win Probability Added. Je peux te dire une chose, que cette statistique-là, elle en a pris pour son rhume dans ce match-là pour Devin Williams. Là. C'était un match qui était dans la poche et qu'on a perdu. Donc, tu comprends. Et ça, ça m'amène, Marc, à la question de la semaine. Je connais ta réponse à ça, qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Le dossier victoire-défaite, est-ce que, selon vous, c'est encore un critère pour évaluer un lanceur? On vous invite à vous prononcer là-dessus en allant sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado, directement sur notre site Internet. Marc, ça a perdu du lustre, la fiche victoire-défaite.
Ben oui, parce que là, premièrement, un, on a un petit peu moins de départ. Deux, on va pas mal moins loin dans les matchs. Tu sais, je veux dire, c'est malheureux. Ouais. Là, on a plus ces duels de lanceurs-là qu'on avait à l'époque. Et on est tributaire de ce qui se passe après, là. Tu sais, je veux dire, ouais. Tu lances 5 manches, 6 manches, 3 autres manches après, ou que c'est les releveurs qui vont tenter de sauvegarder tout ça. Donc, c'est sûr que ça a bien changé. Il y a d'autres statistiques qui nous permettent de comprendre la domination d'un lanceur. C'est sûr que s'il en gagne 20, bien, ça nous donne une bonne idée de la saison. Ouais. Mais ça se peut qu'il en gagne 14, mais qu'il a dominé outrageusement tous ses autres départs aussi.
Oui, c'est arrivé d'ailleurs, il y a des gagnants de Cy Young qui n'ont pas eu beaucoup de victoires, qui ont joué pratiquement pour 500. On a reconnu justement que le nombre de victoires était peut-être tributaire un peu de l'aide à l'attaque qu'on a eue derrière. On pourra toujours avoir un débat. J'aimerais ça avoir Rick Porcello et Justin Verlander qui pourraient nous en parler s'ils parlaient français tous les deux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sera pour un autre débat. C'est notre segment au cercle d'attente présenté par Baseball Bob avec l'auteur Bob McDuff qui nous a écrit et pondu plusieurs livres qui portent sur le baseball destinés aux jeunes. Vous pouvez aller sur le site internet www.baseballbob.ca pour en savoir un peu plus. Une bonne façon de vous initier les jeunes à la lecture. Et on le rappelle, chaque semaine, la lecture vous permet d'élargir vos horizons, que ce soit dans le monde du baseball ou autre. D'ailleurs, la littérature francophone sportive au cours des dernières années, particulièrement le monde du baseball, c'est beaucoup élargi. C'est une bonne occasion, donc, pour vous, de vous initier à la lecture. Notre portrait de la semaine, c'est sur un releveur qui vient d'effectuer ses débuts cette saison. C'est un vétéran australien, Liam Hendricks. Écoute, probablement que ça va bien, il va être le releveur numéro 1 des Red Sox au cours de la saison. Ça fait une dizaine d'années qu'il est dans le baseball majeur, mais c'est avec les A's d'Oakland qu'il a commencé à se faire valoir, par la suite avec les White Sox de Chicago. Deux fois, il a reçu le trophée Mariano Rivera, remis au releveur de l'année dans la Ligue américaine. Trois fois, il a été choisi pour participer au match des étoiles 2019, 2021 et 2022. Survivant du cancer, il a raté la saison 2022. Le retour de l'année en 2023, opération Tommy John, donc tente un autre retour avec les Red Sox de Boston. Marc, c'est toute une histoire pour un joueur qui vient d'un marché non conventionnel, même si en Australie. Tu sais, c'est comme les montagnes russes, hein. Il y a des vagues. Lui, d'arriver dans la vague où les joueurs australiens avaient la cote.
Exact. Et je vais te dire, il s'est quand même forgé toute une carrière. Ouais. Il a le caractère d'un releveur. Tu comprends? J'aurais pas vu le gars-là comme partant avec toute la façon dont ça aurait été trop d'énergie dépensée pendant les premières manches. Mais donc, c'est forgé une belle carrière à ce niveau-là. T'as raison, on l'a connu avec les A's davantage et par la suite. Mais c'est. Tu vois que c'est un gars qui il l'a eu à la dure, Alain. C'est un gars qui a travaillé pour ses succès. Puis je suis content de voir qu'il y a encore une équipe qui lui donne la chance là, de se faire valoir. Lui et Chapman, pour les Red Sox, il devrait être utilisé en fin de match là, lorsque Hendricks sera parfaitement rétabli. Il a recommencé évidemment à jouer, là, mais belle histoire, vraiment une belle histoire. Les Australiens, moi j'ai connu Graham Lloyd, rappelle-toi Graham Lloyd avec les Expos. Je l'avais connu dans les ligues mineures à ce moment-là. Et les Australiens, effectivement, avaient la cote, Alain, absolument. Puis, toujours été des joueurs aussi extrêmement sympathiques, soit dit en passant. Alors, bien content de voir Liam Hendricks encore de retour sur un monticule.
Shane Panette en est un autre Australien qui a joué pour les Expos. Je pense que c'en est un qui a apprécié son séjour à Montréal, Panette. Peut-être un peu trop, disaient certains à l'époque. Marc, je vais te parler de Hansley Mullins. qui a joué brièvement pour les Expos à l'époque où il jouait. C'est un gros cogneur de puissance. Son principal fait d'arme, Marc, c'est d'avoir réussi un gros coup sûr lors des Olympiques de 2000 contre Cuba. Les Pays-Bas qui avaient battu Cuba. Personne battait Cuba à ce moment-là, donc les Pays-Bas qui avaient réussi l'exploit. On l'a congédié comme instructeur des frappeurs des Rockies du Colorado. Les Rockies, ça va assez mal, merci. Surtout à l'attaque, il faut bien le mentionner. On regarde des joueurs qui ont été produits par l'organisation. Marc, il n'y en a pas. Tu as Ryan McMahon, qui d'autre a produit au cours des 10 dernières années. Écoute, c'est lamentable. Le réseau de filiales n'a rien produit. On a eu ces deux belles années où on a réussi à se qualifier pour les séries. C'était en 2017-2018. Et ce sont les lanceurs qui transportaient cette équipe à ce moment-là, avec un Nolan Arenado qui était peut-être le chef de file aussi à l'attaque. On avait ce beau quatuor de lanceurs, en fait. John Gray qui est rendu au Texas. On avait Senzatella, Marquez, Freeland qui est un gars de la place. Bref, moi, où je veux t'entendre, Marc, c'est ce que je trouve incompréhensible. C'est que tu es rendu à la fin, au milieu du mois d'avril, tu as Hansley Mullins, mais Hansley Mullins ne peut pas travailler en silo. Ça ne se peut pas dans le baseball de 2025 qu'un instructeur travaille tout seul, tu sais, et se plie pas à une philosophie qui est établie de haut en bas dans une organisation. Si ce n'est pas le cas, ça en dit plus sur l'organisation des Rockies.
Bien, en fait, je vais commencer ainsi, effectivement. Moi, tu as parlé du réseau de filiales, tu as parlé du succès au repêchage. Ça commence par là, une organisation, Alain. Ouais. Puis là, on a la difficulté. Là, il va falloir s'entourer de gens un petit peu plus compétents, selon moi, là, parce que ou travailler mieux en équipe. Parce que il n'y a rien qui se passe. Il y a quelques bons joueurs ici et là, absolument, mais on n'est pas capable de mettre ça ensemble actuellement là, du côté des Rockies. En passant, on a remplacé Mullins par Clint Hurdle. Alors, Clint Hurdle, qui est l'ancien gérant, qui je pense que c'était avec les Pirates la dernière fois qu'il a agi comme gérant.
Ouais, ouais.
Que j'ai bien connu dans les rangs mineurs comme gérant aussi, soit dit en passant. Mm-hmm. Et Clint, c'est un gars beaucoup plus ici que technique. Et c'est un gars là, plus dans sa préparation, ce qui est un peu à la mode présentement. Là. On est beaucoup plus philosophique là, de préparation, je parle des instructeurs de frappeurs. Là. Évidemment, il y a plusieurs organisations qui embauchent 2, 3 et 4 instructeurs de frappeurs. Mm-hmm. Ils ont tous leur expertise, un sur la technique, l'autre sur l'aspect mental et tout ça. Mais que se passe-t-il au Colorado? On a parlé des problèmes des Blue Jays, mais c'est pas mal plus profond avec les Rockies là, présentement. Écoute, Alain, c'est pour ça que tu as 30 organisations, puis tu as 30 organisations qui agissent de façon différente. Et là, ça fonctionne pas avec les Rockies. Et moi, là, il y a des philosophies d'organisation. Tu as parlé de travailler en silo, mais oui, il y a des approches, une manière de faire. C'est sûr que techniquement, tu peux pas dire à tout le monde, vous frappez comme ça, là. Mais il y a des approches qui peuvent être établies de bas en haut de l'organisation pour que tout le monde arrive et qu'on connaisse un peu le style de l'organisation. Mm-hmm. Chez les Rockies, on n'a rien trouvé. Il n'y a pas de ligne directive. Je m'imagine un jeune qui arrive là, du 2A ou du 3A, qui arrive dans le baseball majeur, puis comment on fonctionne ici. Ça ne doit pas être évident. Puis c'est sûr que ça fait partie des raisons, Alain, des problèmes de l'organisation. Je fais souvent des blagues là, sur le course field. Tu regardes présentement ce qui se passe avec les Rockies. Il y a une équipe pire que les Blue Jays en termes de puissance, Alain.
Ça ne devrait pas être les Rockies.
Bon, alors je ne sais pas qu'est-ce qui, comment on peut régler ça. Ce n'est pas une personne qui va changer ça, assurément. Fait que c'est l'ensemble de l'organisation qui faudrait se regarder dans le miroir pour dire qu'il faut faire les choses différentes. Il y a quand même un certain talent dans cette équipe-là, là, je veux dire. Mais on ne marque à peu près pas de points. On a une série où on a marqué aucun point face aux Padres. Ouais. Les trois jeux blancs, mm-hmm. ça n'arrive pas dans le baseball moderne, Alain, aujourd'hui, ces affaires-là. Ouais. Alors, la même organisation qui a signé Chris Bryant, là, d'ailleurs, Chris Bryant qui a des gros problèmes de santé actuellement, là, on va penser pour lui, mais ça reste que ça part d'en haut, Alain. Je le dis souvent, ça joue comme c'est mené, c'est peut-être pas mené de la bonne façon. On n'a pas cet esprit de gagnant lorsqu'on arrive dans l'organisation des Rockies actuellement.
Ouais.
Fait que t'apprends que ça prend un changement assez drastique, selon moi. Là.
Écoute, Mullins a payé le prix. C'est juste que je trouve quand même bizarre que ce soit un membre de l'organisation qui, théoriquement, suit les commandes de celui qui est responsable de la formation. Puis, comble de malheur, Marc, l'année passée, notre troisième choix, Charlie Condon, certains prétendaient qu'il avait des chances, même cette année, de commencer l'année avec l'équipe. Blessure à un poignet, il n'a pas encore joué cette année. Ça avait été coup-ci, coup-ça à ses débuts dans le baseball professionnel l'année passée. On dit que de lui que c'était probablement le meilleur frappeur parmi tous les joueurs qui étaient disponibles. Le troisième au total. C'est le genre de gars avec qui tu ne peux pas te tromper là, avec le Colorado.
Oui, c'est ça. Tu as l'impression que quand ça va mal, là, les gars se blessent, les gars sont absents pour toutes sortes de raisons. Mais fais attention, Alain. L'instructeur des lanceurs puis l'instructeur des frappeurs, là, c'est leur propre plan à eux. C'est sûr qu'en haut, on dit, OK, on aimerait avoir tel style, mais c'est sûr qu'ils sont responsables de leur département. Je vais dire ça de même, là. Mais c'est sûr que c'est pas l'unique responsable des déboires en attaque. Mm-hmm. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est sûr que quand t'en congédies un de même, on est sûr qu'on s'est regardé dans la mémoire et on a dit, ouais, là, c'est lui qui écope parce qu'il faut poser un geste, mais c'est pas nécessairement le seul responsable. Moi, je trouve que c'est une organisation qui est amorphe.
Ouais.
J'ai rien contre Bud Black, le gérant. J'ai rien contre. Mais si tu regardes un match des Rockies, là.
Ouais.
La belle jasette dans l'abri, là. C'est comme si on va. On est obligé d'aller au parc, puis on va jouer à la balle, puis après ça, on retourne, puis on revient. Il n'y a pas de vie. J'ai regardé quelques matchs. Je n'ai pas un échantillon très élevé, là, mais j'ai peut-être 2-3 matchs des Rockies, puis à chaque fois qu'on monte l'abri. C'est sûr, tu vas me dire, Alain, t'as 3 victoires, 17 défaites, là, tu peux pas avoir que le sourire dans l'abri. Là. Mais il faut que tu commences quelque part. Et je pense qu'il faut que tu commences avec une attitude. Il faut que tu amènes quelque chose là, dans cette équipe-là qui va mêler un petit peu les cartes. Et tu joues dans une division où si tu te réveilles pas, là, tu vas être dernier pendant les 10 prochaines années. Là.
Moi, je m'inquiète un peu. Doyle va bien. C'est la deuxième année qu'il va bien. Il y a une belle progression. Je pense à Tovar. C'est comme par hasard, il est blessé. On lui a accordé un contrat de plusieurs saisons, Marc. Moi, j'ai trouvé que c'est un peu tôt. Et je te l'ai mentionné, Marc, à un moment donné, ce que je trouvais, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de discipline au bâton et que c'est un profil qui ressemble drôlement à celui de Javier Baez, qui a mal vieilli. Tu sais, si tu ne développes pas de meilleure discipline au bâton, Marc, ta marge pour t'améliorer devient mince. Pas compliqué, tu n'as pas de place. Si tu continues à t'élancer sur n'importe quoi puis tu ne reçois pas de but sur balle, regarde, à moins que de frapper pour 330, puis c'est pas le profil d'Ezekiel Tobar. Et aussi bon soit-il en défense, c'est un aspect sur lequel il faut travailler. Puis Marc, je sais que c'est pas facile comme frappeur de changer une approche, tu l'as dit tantôt, t'es comme ça, c'est comme ça, il ne faut pas que tu changes. Mais aujourd'hui, dans le baseball d'aujourd'hui, Marc, tu peux pas avoir le fameux terme, les free swingers là, sont de moins en moins populaires. Puis on le sait parce que le rendement maintenant, on le sait, la présence sur les buts. C'est la statistique la plus importante. Puis si t'as pas ça, regarde.
Oui, mais tu sais, Alain, t'as raison de mentionner que, en fait, il faut faire attention parce que d'ajouter de la discipline, c'est pas de transformer ton élan ou ta façon de penser.
Non.
Tu peux amener une certaine discipline, mais tout en. Tu sais, si tu vois, la discipline, c'est quoi, Alain? C'est de s'élancer sur des prises.
Oui.
Fait que je t'empêche pas de t'élancer avec vigueur ou avec, tu sais, comme la façon que je veux t'élancer. Mais essaie de t'élancer sur plus de prises. Il faut que ton choix soit. Alors, inévitablement, si tu te lances sur plus de prises ou tu te lances sur moins de balles, ton taux de contact va s'améliorer, puis là, tu vas pouvoir continuer à avoir. Bon. Puis dans ce cas-ci, tu fais bien de mentionner, on en a des exemples, dont Avi Baez, puis il y en a d'autres qu'on pourrait nommer, de dire regarde, ces gars-là, les lanceurs sont tellement bons. On a tellement d'informations sur toi aujourd'hui. Tu n'auras pas le choix de t'améliorer en termes de discipline. Il faut que les frappeurs en soient conscients. Et si c'est le cas, il va pouvoir trouver une certaine discipline. Est-ce qu'il va venir un gars qui ne sera jamais retiré sur des prises? Absolument pas. Mais tu coupes là, coupe 20 % de tes retraits sur des prises, remplace-les par des buts sur balle ou un taux de contact. Ça va faire une énorme différence. Je le dis souvent, la différence, Alain, entre un frappeur de 250 et de 300, c'est un coup sûr de plus par semaine. Tu joues 26 semaines, j'ai 26 coups sûrs de plus que je coupe dans mes retraits sur des prises. ben, j'étais un frappeur de 300. Fait que, ouais. c'est, vu de même, là, il y a moyen de dire à un gars que c'est important d'aller chercher un petit peu plus de patience, discipline.
Je vais te nommer deux joueurs, Marc, qui n'ont pas été capables de s'ajuster, qui ont eu des débuts de carrière prometteurs, mais que ça a périclité rapidement en raison, justement, de ce manque d'ajustement. Jeff Francoeur et Rocco Baldelli.
Ah oui, c'est vrai.
C'est deux gars qui, tu regardes leur nombre de buts sur banc en début de carrière, qui étaient peu élevés. On avait de la puissance, on produisait des points, mais à un moment donné, Marc, à moins d'avoir tout contact, et celui que j'ai en tête, c'est Vlad Guerrero, là. Vlad Guerrero, le père. C'est un cas à part, celui-là.
Mais tu sais, le but sur balle est important. Là, je t'enlèverai jamais ça. Là. On t'entend bien là-dessus. Là, mais moi, là, ce que je préfère dans les nouvelles données, c'est ce que je t'ai mentionné. Moi, mes fils sont au collège. Un de mes fils m'a envoyé une donnée. Là. Ils ont tout évalué durant les matchs d'automne. C'est que le nombre de fois que tu te lances sur des prises puis le nombre de fois que tu te lances sur des balles. Et là, ben écoute, tu regardes là, puis tu vois que, OK, lui, il est bien, lui, là, il a un bon œil au bâton. Alors, si ça, par exemple, si son taux de contact pas son taux de contact, mais exemple, sa moyenne au bâton, là, je vais utiliser une vieille statistique. Ouais. Si sa moyenne au bâton n'est pas élevée, au moins, il s'élance sur des prises. Donc là, c'est un petit peu un aspect, mettons, mécanique qu'on doit changer pour que, parce que son œil au bâton est là. Tandis que tu en as d'autres que tu vois que, la moitié de ses élans sur des tirs, c'est qu'ils sont hors de la zone des prises. Alors, clairement, là, lui, il faut travailler un aspect. Donc, tu sais, il y a des données qui sont vraiment le fun à ce niveau-là, qui peuvent vraiment aider un joueur, justement, à se discipliner, d'avoir une meilleure lecture sur ce qui s'en vient, puis de comprendre ce que les lanceurs veulent faire avec lui.
Oui. Juste une donnée pour terminer, Marc, et tu vas voir où je vais en venir. Le pourcentage de prises dans un match à travers le baseball, grosso modo, là, on est autour de 63%. Le ratio de véritable prix est de 57%.
Bon.
Ouais. Donc, il y a un 6%, là, des bons frappeurs réussissent à réduire ce 6%-là. Un Javier Baez, ben lui, regarde, le 57, là, il est probablement autour de 50.
Oui, exact. Imaginez, là, fait que tu as un lancé sur deux qui n'est pas cadré. Là. C'est vu de même, là, c'est un peu ça. Là. Donc, mais c'est dur, Alain. Là. On en parle, là, mais faut-il le répéter? On n'a jamais eu autant de lanceurs qui lancent avec force, que la balle bouge, que la balle. C'est dur d'être un frappeur dans le baseball majeur aujourd'hui. Moi, je lève mon chapeau. Je trouve que les athlètes sont meilleurs que jamais. Mais on a des données qui nous permettent de tenter de s'améliorer. Et dans le cas de Tovar, c'est un très, très bon exemple que tu as mentionné là-dessus.
Oui. Voilà donc ce qui termine ce balado. On vous invite à nos matchs de la semaine. L'horaire des matchs présenté par Lester, c'est le maître du Smoked et des Hot Dogs depuis 1931. Que ce soit pour un match, barbecue, festin en famille, etc. C'est Lester qui est au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Trois matchs cette semaine, soit ce lundi. C'est à 19h. Enfin, les trois matchs sont à 19h. Philadelphie, les Phillies contre les Mets de New York. Mercredi, on verra les Dodgers de Los Angeles contre les Cubs de Chicago. Deux bons duels en semaine. Et pourquoi pas un autre duel de qualité de la Ligue nationale dimanche. On verra les Phillies contre les Cubs de Chicago à 19h également. Quant aux endroits où ce sera présenté, c'est à RDS. Mais regardez votre horaire parce qu'on comprend que les séries éliminatoires de la Coupe Stanley ont commencé. Donc, la programmation pourrait être modifiée en cours de match dans ces trois cas. Donc, on vous invite à être à l'affût. Mais en ce qui concerne le baseball, les trois matchs que je viens de mentionner, ce sont ceux qu'on vous présente au cours de la semaine. Voilà qui met un terme à ce balado. Alain Huzeron, de compagnie de Mark Griffin. Merci à Martin Villeneuve, notre maître technicien. On se souhaite une bonne semaine sportive de baseball. À la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.